quand les dieux rôdaient sur la terre. Il y a très longtemps, en Grèce, une voix ensorcelait tout le monde, les humains, les arbres, les rochers et même les fleuves, qui arrêtaient leur cours pour écouter. Un jeune homme chantait. Il s'accompagnait de la lyre que lui avait donnée le dieu Apollon. Personne n'avait encore chanté comme lui. Chacun de ses chants était un miracle. Les êtres qui peuplent le monde accouraient tous, les habitants des airs ou des mers venaient l'entourer, l'entendre et lui faire fête, nous dit le vieux poète Simonide.
En nombre infini, sur sa tête volaient les oiseaux, et tout droit les poissons se lançaient hors de l'eau sombre, en accord avec sa belle chanson.
On ne sait pas bien ce que chantait ce chanteur merveilleux. Il ne chantait pas la nature, les animaux, les arbres, les rochers, les fleuves. Il pouvait faire beaucoup mieux.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Il ne chantait pas la nature, il l'enchantait. Il l'envoûtait. Il la bougeait par sa voix. Le cours habituel des choses s'interrompait. Tout changeait de place et se rapprochait du chanteur. Les rochers abandonnaient leurs montagnes pour l'entendre. Les forêts accouraient, les bêtes, souvent ennemies, féroces entre elles, venaient autour de lui pacifiquement. Les daims n'avaient pas peur des loups, les serpents oubliaient leur venin. Plus rien n'était normal, naturel. Le chant, la voix changeaient tout, déplaçaient tout. Tous les êtres quittaient leur lieu naturel pour participer à l'extase immobile et fascinée d'un moment de musique. Il s'agit évidemment d'Orphée et de sa lyre, celui qui a perdu son Eurydice et ne la retrouvera jamais.
Ce récit de cette obsession d'avoir quelqu'un à retrouver, voilà, qui est une obsession de l'existence. Voilà. Il y a des gens dont la vie s'organise sur cette obsession-là de retrouver autrui, de retrouver quelqu'un.
Retrouver pour sauver.
Frédéric Boyer.
C'est-à-dire, si on a cette obsession-là, on se demande pourquoi on est convoqué à cette idée d'aller chercher quelqu'un et de reconnaître quelqu'un et de le retrouver. On s'imagine, surtout quand on est petit garçon, que c'est pour le sauver. Mais justement, la très belle histoire d'Orphée, peut-être, fait tenir cette ligne de crête qui est peut-être aller vouloir rechercher quelqu'un pour le sauver, peut-être on le précipite à sa perte.
Raconter Orphée et son histoire est particulièrement difficile, car on ne sait quasiment rien sur lui. A-t-il seulement existé ? Aristote, l'immense philosophe qui a scruté l'ensemble des choses, qui a aussi beaucoup enquêté sur la poésie et sur les poètes, dit que Orphée est une invention, qu'il n'a jamais existé. Alors que Homère, lui, avait été, selon Aristote, un être bien réel, de chair et d'os. L'auteur de poèmes bien connus, d'Orphée, on ne sait rien. Les très nombreux textes, oracles, hymnes, poèmes sur la naissance du monde qu'on dit être de lui ne sont sûrement pas de lui. Rien de sûr pour Orphée. Ce qui est sûr, c'est qu'il chante. La légende la plus connue d'un Orphée descendant dans les enfers pour récupérer sa femme, la jeune Eurydice, mordue par un serpent. D'un Orphée charmant les dieux des enfers avec sa musique et ayant d'eux obtenu l'autorisation de raccompagner son Eurydice vers la lumière, à condition qu'il ne se retourne pas vers elle. D'un Orphée ne résistant pas, se retournant alors qu'ils allaient quitter le royaume des morts, Orphée perdant donc à jamais son Eurydice. Nous reviendrons sur cette belle et triste histoire. Toute cette légende est tardive. Elle ne nous est pas racontée avant le poète latin Virgile, qui a vécu un peu avant Jésus-Christ. On ne sait pas du tout comment cette histoire était racontée avant. Elle existait pourtant, cette histoire, depuis longtemps. La preuve nous en est donnée cette fois par une image, et non par des textes. Un artiste romain, un sculpteur, a fait une copie d'un bas-relief athénien datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le bas-relief avait été sculpté par un rival de Phidias. Il est perdu. Il nous reste la copie romaine. Cette sculpture émouvante, raffinée, fixe le moment ultime de la séparation entre Eurydice et Orphée. L'image, immobile, sait faire voir les mouvements d'hésitation entre les amants. On y voit très nettement Orphée, qui, au lieu d'avancer, s'est arrêté. Il se retourne et regarde la jeune fille. Les deux amants, juste au moment de leur séparation irrémédiable, sont exactement dans la même pose. La jeune fille a un pied tourné vers Orphée, devant elle, vers sa libération et vers la vie, alors que l'autre pied esquisse déjà un mouvement de retour vers les enfers. Derrière elle, le dieu qui conduit les âmes des morts, Hermès, s'avance. Mais c'est pour tirer la jeune fille en arrière, pour qu'elle revienne chez les ombres. Un moment d'arrêt, de suspens, avant la séparation perpétuelle et les grands chagrins d'Orphée et ceux d'Eurydice, repartis pour toujours dans la nuit. Cette histoire, visiblement, n'a pas vraiment intéressé les poètes. Homère, Hésiode, Pindare n'en disent rien. Mais elle était présente. Peut-être qu'elle paraissait trop populaire, trop commune ou trop naïvement merveilleuse aux poètes de la grande et noble poésie. Peut-être qu'elle circulait par d'autres voies que les grandes odes ou les épopées qui tenaient le haut du pavé de la poésie officielle. Du pop and folk. Pour le moment, on ne le sait pas. Mais Orphée, le chanteur en chanteur, était bien là depuis longtemps. Et son chant est merveilleux. Il pouvait attirer tous les êtres dans une atmosphère nimbée de plaisir. On parlait souvent d'Orphée, en bien ou en mal. Pour dire de quelqu'un que son langage est répugnant, qu'il fait fuir, on disait qu'il ne parle pas comme Orphée.
D'Orphée, tu n'as dans ta langue que le contraire. Car lui, de sa voix, entraînait tous les êtres grâce au plaisir. Et toi, tu énerves avec tes gentils aboiements. Tu seras entraîné, maîtrisé, et tu montreras alors plus de douceur.
Dit un méchant tyran à des vieillards épris de liberté dans la tragédie Agamemnon d'Eschyle. Ou la pauvre Iphigénie, jeune fille que son père s'apprête à sacrifier au nom des valeurs viriles et guerrières de l'armée grecque. Chez Euripide, elle se plaint de ne pas pouvoir parler comme Orphée et de n'avoir à opposer à son père que ses larmes. C'est sa seule compétence.
Si j'avais la langue d'Orphée, mon père, pour persuader par mes incantations les rochers de me suivre et pour ensorceler qui je voudrais par mes paroles, j'aurais suivi ce chemin. Mais je n'ai comme savoir-faire que de montrer mes larmes. Ce pouvoir-là, je l'ai.
Mais Orphée n'était pas seulement un modèle positif de charme, de beauté chantante. Il pouvait aussi sérieusement énerver. Orphée n'était pas seulement un chanteur, même si c'est bien, je crois, sa qualité profonde. Autour de cette idée d'une voix miraculeuse, qui peut dire aussi bien la vie que la mort, qui peut franchir toutes les limites habituelles, et notamment celles qui séparent le monde des vivants du séjour des disparus, se sont vite agglutinées des croyances, des mystiques, qui promettaient aux humains, hommes et femmes, semblablement à égalité, un salut au-delà de la mort. Pour atteindre ce salut, il fallait mener une vie de pureté, s'abstenir de viande, être vertueux et étudier ce que cette voix légendaire avait consigné dans d'innombrables livres qu'on se transmettait et qu'on étudiait dans des petits groupes, des sectes. Tout l'inverse de ce qui se pratiquait couramment dans la culture grecque normale. Ces intellos ascètes et sectaires avaient de quoi énerver ceux qui aimaient les viandes, l'amour et vivre en dehors des livres. L'immense majorité des gens. Ainsi, dans sa pièce Hippolyte, Euripide, le poète tragique, fait vituperer son personnage Thésée, le grand héros athénien, contre Hippolyte, son fils trop chaste et trop pur, un jeune homme qui ne pense qu'à courir avec ses chiens pour aller à la chasse et qui ne s'intéresse pas une seconde aux travaux amoureux d'Aphrodite. Thésée, à l'inverse, est un vieux coureur, un jouisseur, un conquérant infatigable. Or, son fils Hippolyte est accusé à tort d'avoir voulu abuser de sa femme à lui, Thésée, la belle et jeune Phèdre. Jean Racine reprendra toute l'histoire au XVIIe siècle. Hippolyte est en fait innocent, mais furieux. Thésée dénonce en lui un Tartuffe, un hypocrite, un fanatique d'Orphée.
Regardez-moi celui-là. Il est né de moi et il offense mon propre lit. Révèle ton visage. Toi qui en es arrivé à cette saleté, ici même, face à ton père. C'est donc toi, l'homme supérieur, qui vit dans la compagnie des dieux? Toi, le vertueux, l'étranger à tout mal? Je ne croirai jamais un mot de tes vantardises, car jamais je n'aurai la folie de dire que les dieux pensent mal. Vas-y, fais le fier. Va colporter ton régime qui ne mange pas de viande. Obéis à ton maître Orphée. Fais le délirant en vénérant 1000 livres fumeux.
Essayer de comprendre quelque chose d'Orphée, cet être singulier, très populaire, mais fuyant, clivant, qui a eu mille visages, c'est peut-être essayer de comprendre ce que sa voix avait d'unique. Cette voix d'Orphée fascinait. Elle semblait dire aux humains qu'au-delà de toutes les épreuves, de toutes les différences, des déchirures qui font la vie normale, quand on perd l'être aimé, quand on aime, quand on meurt, il y a imperturbable le flot d'une voix humaine qui continue à chanter, triste ou enjouée, mais inépuisable. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours cette voix pour le chanter.
Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela final. De carnaval, canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe parle d'Orphée.
Orphée, la voix humaine.
C'est une autre écriture, la voix ?
Roland Barthes.
La voix, c'est très énigmatique. C'est vraiment, c'est le lieu du corps qui est à la fois le plus désirable et aussi le plus mortel, le plus déchirant, en quelque sorte.
Orphée, disait-on, était le fils d'une muse. On lui donne souvent pour mère la plus importante des muses, la muse par excellence, celle qui s'appelait Belle-Voix, Calliope. Fils d'une muse, il descendait de Zeus et de l'ancienne déesse Mémoire, puisque les muses sont nées de l'accouplement de Zeus et de Mémoire. Les muses ont la connaissance de tout ce qui a lieu dans le temps. Elles se souviennent de tout. Le père est parfois Apollon. Mais dans la plupart des traditions, c'est un mortel, un dénommé Oyagros. Oyagros est un nom de berger qui signifie « mouton sauvage ». C'est un nom normal pour un père de poète. Les poètes, en effet, viennent souvent du monde des bergers. Ces humains marginaux gardent leurs troupeaux loin des villes, loin des terres cultivées. Ils sont à l'écart, poreux, à tout ce qui peut venir de loin, à tout ce qui n'est pas normé, civilisé, comme ce qui est divin. Cet Oyagros, le père d'Orphée, était, paraît-il, un roi. On dit parfois que ce roi était un religieux, un mystique, qui connaissait des secrets sur les dieux, sur la vie, et qui les aurait transmis à son fils Orphée. Tenait-il ces secrets de la muse Calliope ? Peut-être. Une autre histoire dit que cet Oyagros était en réalité un fleuve. Était-il tumultueux, brutal, comme souvent sont les fleuves quand le désir érotique les prend ? Ou l'union avec la muse a-t-elle été pacifique ? On ne sait pas. Naître d'une muse et d'un fleuve est tout à fait indiqué pour un poète. L'eau d'un fleuve qui coule sans dévier, de son propre mouvement, a souvent été comparée au flux de la voix. Le dernier chant d'Orphée sera, après sa mort, celui de sa tête coupée, flottant longuement sur les eaux d'un fleuve de son pays. Ce pays d'Orphée est la Thrace, avec un TH au début du mot. un pays au nord de la Grèce, au nord de l'Olympe, pays plutôt sauvage, loin de tout. Ce lieu écarté est loin des grandes routes, des grands sanctuaires, loin aussi des lieux célèbres où se sont déroulées les grandes actions héroïques qui font la mythologie. Que ce soit à Thèbes, avec la famille d'Œdipe, à Argos et Sparte, avec Agamemnon et Ménélas, à Athènes, avec Thésée. Ce lieu de naissance, la Thrace, région lointaine, sauvage, distingue Orphée des autres poètes connus. Homère, lui, est un urbain. Il est né, si on peut dire, dans plusieurs villes, selon les différents mythes qui racontent sa naissance, chaque ville voulant être la ville d'Homère. Mais Homère a toujours grandi dans un monde civilisé, hyperactif, un monde de villes, de commerce, de grandes cultures. Le monde en plein boom économique, politique, culturel, religieux, des villes des côtes de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Hésiode, lui, dit qu'il est né dans un gros bourg rural, trop chaud l'été et trop froid l'hiver, mais où on travaillait ferme. Hésiode était né dans une famille de paysans immigrés, mais bien implantés dans leur terre de Béotie. Des gens qui étaient d'abord préoccupés par la rentabilité de leur agriculture et par les dures réalités des litiges entre agriculteurs. Rien de cela pour Orphée. Il erre, voyage, passe toutes les frontières, et même celles normalement infranchissables qui séparent le monde des vivants de celui des morts. Dans le nom de Orphée, Orpheus, résonnent plusieurs mots grecs qui évoquent ce qu'il est. Les anciens devaient entendre ses échos, ses rappels. On a parfois perçu dans Orpheus l'écho du mot orphanos, qui a donné notre orphelin. De manière plus générale, orphanos veut dire qui est privé d'un parent, d'un proche. Orphée serait l'éternel veuf, privé de son Eurydice. Orpheus rappelle aussi l'obscurité, la noirceur. Les ténèbres nocturnes se disent en grec « orphné ». Avoir un nom aussi noir va bien avec le métier de poète. On dit bien des muses qui inspirent les poètes qu'elles sont souvent couvertes de nuit. Elles sont invisibles, opaques comme la brume. Les muses sont d'abord des voix, des chants. Elles ne se voient pas. Et ce qu'elles chantent et font chanter aux poètes, on ne le voit pas non plus si on est un humain normal. Ce sont les histoires des dieux et des déesses qui n'apparaissent aux humains que rarement. Et ce sont les histoires des héroïnes et des héros du passé, des histoires de gens bien morts. C'est pour cela que les poètes souvent sont aveugles, comme Homère. Ne voyant pas le monde extérieur, il communique avec l'invisible. Mais ce n'est pas le cas d'Orphée, il a l'œil clair, il veut voir trop même. C'est ce qui lui fait perdre Eurydice, puisqu'il a voulu à tout prix la voir avant qu'elle ne soit complètement sortie des enfers. Si Orphée est obscur, c'est surtout qu'il est allé vivant, avec ses deux yeux bien ouverts dans l'invisible, dans le royaume des morts, et qu'il y a chanté. Il y a même séduit les divinités qui règnent sur les ombres. Orphée, dans sa légende, est l'homme de deux grands voyages, toujours vers un au-delà. Un au-delà dans le monde, avec le voyage des Argonautes dans une mer inconnue, vers la fameuse Toison d'Or. Et un voyage au-delà du monde visible, avec la descente d'Orphée aux enfers pour y reprendre son épouse Eurydice. Orphée est le poète qui a accompagné les héros embarqués avec Jason sur le bateau appelé Argo. Ces 50 héros, les Argonautes, sont partis loin vers les levées du soleil, à la conquête de la fameuse Toison d'Or. Nous avons raconté cette histoire le jour où nous avons parlé de Médée, la princesse barbare, qui par sa magie et par son amour inconditionnel a permis à Jason d'emporter cette Toison d'Or. Orphée, le chanteur, joue un grand rôle dans cette quête héroïque, qui ressemble à la quête du Graal par les chevaliers de la Table Ronde, mais ça dure moins longtemps, seulement 4 mois. L'histoire nous est racontée par la très longue épopée « Les Argonautiques » qu'a écrite un auteur relativement tardif, Apollonios de Rhodes, un érudit, un savant qui travaillait à la grande bibliothèque d'Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère. Il est frappant que cette immense saga, celle des Argonautes, n'ait pas été traitée par des poètes plus anciens de l'époque ou de la trempe d'Homère. Orphée intervient dès le début de la saga des Argonautes. D'abord, Son chant fait que les arbres nécessaires à la construction du bateau, les chênes, descendent d'eux-mêmes de leur montagne, le Pélion, et se ruent vers la côte où la coque de l'Argot va être assemblée. Quand la nef Argot prend le large, c'est le chant d'Orphée qui rythme la cadence des rameurs et fait que l'eau bouillonne dans un tumultueux et blanc sillage. Navigation, poésie, force de la mer déchaînée se confondent grâce à Orphée le poète dans une même énergie.
Comme on voit les jeunes gens à Delphes, à Ortigui ou près des eaux de l'Isménos se mettre à danser pour Phoïbos Apollon. Ils tournent autour de l'autel, au son de la lyre, ensemble, en belle harmonie, et font craquer le sol sous leurs pieds rapides. De même, au son de la cithare d'Orphée, les argonautes frappaient de leurs rames, l'eau déchaînée de la mer. Le rugissement des vagues éclatait. De part et d'autre, l'eau noire s'écoulait en écume, grondante, effrayante, par la fougue des hommes pleins de force. Sous le soleil, les armes fulminaient, pareilles à la flamme qu'encourait le bateau. Son grand chemin ne cessait de blanchir la mer, comme on voit une route fendre bien visible, une plaine qui verdoie.
On n'a pas là seulement une jolie description d'un bateau courant dans l'écume. On peut dire qu'un poète épique comme Homère n'aurait jamais raconté une telle scène. Chez Homère, un chanteur peut chanter avec sa lyre la force des vagues, la vitesse d'un bateau, la force des rameurs, comme Homère le fait tant de fois dans l'Odyssée. Mais Homère n'aurait pas mis un poète dans le bateau pour le faire avancer. Chez Homère, quand on chante avec sa lyre, c'est le soir. Après tous les labeurs de la journée, une fois l'action accomplie. Ici, c'est le poète lui-même et son chant qui donnent sa vitesse au bateau, sa force à l'équipage, et qui font éclater la mer en grandes gerbes d'écume. La poésie, par son énergie, fait l'action. Elle ne lui est pas extérieure. Orphée ne chante pas les choses, il les réalise. Les argonautes iront par son chant jusqu'au terme de leur aventure. C'est encore Orphée qui donne aux argonautes la force mentale d'affronter les grands dangers marins qui les attendent. Les argonautes, pour atteindre le pays de la Toison d'Or, loin sur les côtes de la mer Noire, doivent franchir une barrière, un seuil fatal qu'aucun marin n'a jamais franchi. Au-delà, c'est un monde totalement inconnu. Nous avons évoqué cette barrière rocheuse immense qui bloque l'accès à la mer Noire, deux rochers noirs qui se précipitent l'un vers l'autre et écrasent les bateaux. Avant ce passage, Orphée oblige ses compagnons à subir une initiation. Il incite les argonautes à relâcher à l'île de Samothrace, située avant ce détroit très dangereux. Là, dans des cérémonies secrètes dont nous ne saurons rien, il leur transmet les connaissances mystiques qui leur permettront de naviguer en toute sécurité. Mais l'auteur de l'épopée Apollonios de Rhodes s'interdit d'en dire plus.
Au soir, Orphée leur conseilla de faire route vers l'île de la déesse Électra, une fille du dieu Atlas, pour qu'ils apprennent, par de douces cérémonies d'initiation, les règles indicibles qui les feront naviguer en grande sûreté sur la mer glaçante d'effroi. Je n'en dirai pas plus, mais je salue cette île et les dieux de cette île qui ont charge de ces fêtes qu'il m'est interdit de chanter.
Les argonautes franchiront la passe maudite et accéderont au pays lointain, merveilleux et solaire de la Toison d'Or. Mais rien ne nous est dit de ce que Orphée leur a appris. C'est un secret indicible, comme sont les initiations que suivaient de nombreux Grecs dans les cérémonies des mystères.
Fermez les yeux, je vous guide.
Mais elle, je peux la regarder.
N'ouvrez les yeux sous aucun prétexte.
Tenez-le par les épaules, ce sera plus sûr.
Venez.
Maria Callas, j'ai perdu mon Eurydice.
Thank you.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Pierre Judet de la Combe parle d'Orphée.
Orphée, la voix enchanteresse et humaine.
La figure d'Eurydice est très intéressante parce que...
Anne Dufour-Mantel.
Dans quelle mesure est-ce qu'elle ne choisit pas de revenir aussi dans ce lieu dit des enfers, mais qui est aussi le lieu de l'enfermement d'une certaine version du masochisme, c'est-à-dire d'une sécurité à tout prix. Et qu'au fond, l'angoisse dans laquelle vous met l'amour, c'est aussi cette relance qui ne trouve pas de réponse à un moment. Où l'autre n'est pas là seulement pour vous rassurer, il vous renvoie... à une nécessité d'aller au-delà même de la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire que c'est peut-être la mystique de l'amour, c'est qu'elle renvoie sur encore un autre autre.
Le second voyage d'Orphée est plus sombre et triste. Il emmène Orphée sous terre, dans les enfers. Cette histoire devait rôder dans les esprits, mais nous n'en avons de récit complet que très tard dans le poème « Les Géorgiques », composé à Naples par le poète romain Virgile dans les années 30 avant Jésus-Christ. L'histoire d'Orphée clôt ce long poème où Virgile se demande comment il faut travailler la terre selon le sens du mot grec « géorgique » qui sert de titre au poème. Virgile se demande ce qu'il faut faire pour que les moissons soient heureuses. Virgile passe en revue toutes les activités paysannes. C'est bizarre que l'histoire d'Orphée figure en conclusion du poème. Orphée le poète n'est pas précisément un cultivateur, mais une voix poétique. Essayons de comprendre. Dans le poème de Virgile, toute l'histoire d'Orphée et d'Eurydice commence par une histoire d'abeilles. Encore une fois, c'est étrange. Orphée n'a rien à voir avec les ruches et les abeilles, même si la voix des poètes et des muses est souvent comparée au miel. Un fils d'Apollon, un apiculteur, Aristée, a vu d'un seul coup tous ses essaims mourir de faim et de maladie. Il panique. Sa mère lui conseille d'aller questionner un vieux sage, le dieu marin Protée, qui erre partout sur les eaux et qui sait tout. Protée révèle à Aristée la cause de son malheur. Aristée paye avec la mort de ses abeilles une grande faute. Il a contre lui la colère d'Orphée. C'est en effet à cause d'Aristée que la femme d'Orphée, Eurydice, est morte. Eurydice, joyeuse, dansait avec ses amis les nymphes. Mais Aristée, plein de désir, s'est mise à la pourchasser. Pour lui échapper, Eurydice a couru et dans sa hâte s'est fait mordre par un serpent qu'elle n'a pas vu.
Elle a fui, tête baissée, le long de la rivière. La jeune femme n'a pas vu, devant ses pieds, dans les hautes herbes, un serpent énorme qui gardait la rive. Elle en est morte. Cœur des filles de son âge. Cri immense sur les sommets des montagnes. Les cygnes du Rhodope ont pleuré les hauteurs du Pangée et la terre guerrière de Rhésus, et les Jettes, et l'Èbre, et Orytilatique. Et Orphée, pour soulager de sa lyre vide son amour malade, seul avec lui-même sur le rivage, désert, c'est toi qu'il chante, femme douce.
Eurydice, ce n'est pas possible. Orphée, vous connaissez la mort.
Ah, j'en parlais. Je la chantais. Je ne la connaissais pas.
Vous la connaissez? Vous êtes allé chez elle.
Artemise.
Il n'y a plus rien à faire. Votre femme habite un autre monde, où je vous invite à me suivre.
Je la suivrai aux enfers.
Orphée décide d'aller vivant rejoindre Eurydice dans les enfers. Il veut essayer de fléchir le cœur du dieu Pluton qui règne là-bas pour qu'il lui rende son épouse. Orphée passe les portes des enfers et descend. Il continue à chanter.
mais du fond des séjours de l'Erebe, émue par son chant, montent les ombres ténues, fantômes privés de lumière. On dirait 1000 oiseaux cachés dans les feuilles et chassés des montagnes par le soir où, une pluie d'orage, mère, mari, corps défunt de nobles héros, enfants, jeunes vierges sans époux, jeunes gens jetés aux flammes sous les yeux des parents, tous encerclés par la boue noire, les roseaux difformes du Cocyte, par le marais horrible et son eau dormante, retenue et 9 fois prisonnier des boucles du Styx. Oh, stupeur dans les maisons, dans les profondeurs létales du Tartare, chez les Euménides aux cheveux entremêlés de serpents azurés, Cerbère, béant, retient ses 3 gueules.
Le dieu Pluton et son épouse Proserpine sont à leur tour envoûtés par le chant d'Orphée. Ils cèdent. Il libère Eurydice. Il peut la ramener chez les vivants, mais à une condition, qu'il ne se retourne pas vers elle, qu'il ne la regarde pas avant qu'ils ne soient tous deux entièrement sortis du royaume des morts. Les deux amants s'en vont. Mais Orphée n'obéit pas. Il n'est pas mort, mais trop vivant, trop humain. Il veut voir. Dès qu'il y a un peu de lumière, dès qu'il s'approche du monde des vivants, Orphée se retourne et regarde Eurydice.
Soudain, l'imprévisible amant devient fou. Bien pardonnable pourtant si les morts savaient pardonner. Il s'arrête. Son Eurydice est déjà sous la lumière. Il oublie tout, hélas, vaincu par le désir, et se retourne pour la regarder, tous ses efforts anéantis. Le pacte conclu avec l'abominable tyran est rompu. Et elle ? Quoi ? Qui nous a perdus ? Demande-t-elle. Et moi, la malheureuse, et toi, Orphée ? Quelle folie si violente ! Les destins cruels me rappellent en arrière. Le sommeil éteint la lumière flottante de mes yeux. Adieu, maintenant. Je suis ramené à la nuit gigantesque qui m'encercle. Hélas ! Moi qui ne suis plus à toi, les paumes impuissantes de mes mains tendues vers toi, dit-elle hors de sa vue soudain, qui s'enfuit à l'opposé comme une vapeur mêlée au souffle ténu. Lui en vain veut rattraper les ombres et lui dire tant de choses encore, mais il ne la voit plus.
Virgile ajoute qu'il a entendu dire qu'Orphée a passé 7 mois immobile sur une falaise, au bord d'un fleuve de son pays, la Thrace. Pendant tout ce temps, il a chanté. C'est ce chant de tristesse inconsolable qui a fait venir autour de lui bêtes et arbres.
Tigres adoucis, chênes émus par son chant.
Puis Orphée aérait solitaire vers le nord, traversant glace et neige. Désormais insensible à l'amour, aucun amour, aucune étreinte ne touche son cœur. Les femmes de Thrace prennent cette distance pour un rejet, pour de la haine des femmes. Elles sont en colère. Une nuit, par rage, elles déchirent le corps d'Orphée.
Et les femmes, Cicône, prenant pour du mépris cette plainte, une nuit, au cours d'orgies sacrées en l'honneur de Bacchus, déchiquettent le jeune homme, dispersent ses restes au loin dans les champs.
Il y a eu beaucoup d'interprétations de cet écartèlement, de cette dispersion du corps d'Orphée. Ou bien, Orphée, privé d'Eurydice, aurait commencé à aimer les hommes. Les femmes de Thrace abandonnées l'en auraient puni. Ou bien, il aurait institué des cultes secrets interdits aux femmes. Elles se seraient vengées. Comme les hommes devaient laisser leurs armes à l'entrée du lieu de la cérémonie, les femmes se seraient emparées de ces armes pour massacrer Orphée. Ou bien encore, Orphée aux enfers aurait négligé de chanter Dionysos. Ce dieu se serait vengé en envoyant ses bacchantes le dépecer. On dit aussi qu'après son séjour parmi les ombres, Orphée aurait préféré rendre hommage à Apollon, le dieu solaire, lumineux. Il montait tous les jours sur la montagne Pangée pour voir se lever le soleil avant tout le monde. Dionysos, le dieu des mystères souterrains, lui en aurait voulu. Tout est possible. Orphée est tué, mis en morceaux. Son corps est dispersé, mais un miracle se produit. Virgile raconte que la tête d'Orphée arrachée à son cou fut jetée dans un fleuve, l'Èbre, un fleuve de Thrace. Or, la tête flotta et continua à chanter.
Et même encore une fois, sa tête arrachée à la blancheur de son cou qui roulait dans le gouffre emporté par le fleuve. « Eurydice !» appelait sa voix et sa langue glacée, une fois sa vie enfuie. « Malheureuse Eurydice !» Et le long du fleuve sur les rives, l'écho répétait « Eurydice !»
On raconte parfois que la tête d'Orphée a suivi en chantant tout le cours de l'Èbre jusqu'à la mer et a continué sa route jusqu'à l'île de Lesbos, l'île de la poétesse Sappho. Apollon lui a donné une tombe où Orphée continue son chant. On raconte aussi qu'elle est allée plus loin jusqu'à rejoindre sur la côte d'Asie mineure l'embouchure du fleuve Mélès, fleuve dont le nom veut dire mélodie. C'est le fleuve qui, quelques générations plus tard, sera le père d'Homère. Des images surprenantes, peintes sur un vase ou taillées sur une pierre précieuse, nous montrent la tête d'Orphée flottante sur les eaux et chantante. Elle dicte ses oracles, ses poèmes, ses conseils à un jeune homme qui les écrit sur une tablette. Apollon, parfois, guide le jeune scribe. L'éternité de la voix du poète démembré, qui n'est désormais plus qu'une voix, se transmet dans les innombrables écrits qui ont été attribués à Orphée. Quel rapport avec les abeilles d'Aristée, le violeur empêché, qui, selon Virgile, a causé la mort d'Eurydice ? Virgile achève son récit et son poème. Le vieux savant marin Protée raconte à Aristée toute l'histoire d'Orphée, d'Eurydice et de la tête d'Orphée. Puis il disparaît, s'en retourne dans les eaux. La mère d'Aristée dit alors à son fils, responsable de la mort d'Eurydice qui l'a convoité, qu'il doit expier sa faute. Il doit sacrifier à Orphée. Il lui faut immoler 4 taureaux et 4 génisses sur 4 autels laissés couler leur sang. Puis il devra abandonner leurs cadavres dans les bois, sous des feuilles, pendant 9 jours. C'est surprenant. Orphée a horreur des sacrifices sanglants. Au bout de 9 jours, Aristée devra offrir à l'ombre d'Orphée le fruit du pavot. Cette plante magique donne l'oubli, efface tout. Il n'y aura alors plus de litige entre Aristée et Orphée, plus de chagrin d'Orphée, plus de peine. Tout sera oublié.
Eurydice.
Comme pour la tête d'Orphée, un miracle se produit. Au bout de 9 jours, Aristée offre le pavot de l'oubli à l'ombre d'Orphée. Au même moment, dans le ventre des taureaux et des génisses immolés, des milliers d'abeilles commencent à bourdonner, à bouillonner, puis elles s'échappent vers la cime des arbres en immense nuée. La vie reprend. Une histoire de renaissance après la mort. Poésie et travail sont finalement réconciliés. Il a fallu la mort d'Eurydice, le passage d'Orphée par les ombres, son immense chagrin de deuil transformé en mélodie, puis le chant continu de sa tête qui chante encore après sa mort, puis l'oubli du chagrin pour qu'Orphée trouve le repos. Seulement à ce moment-là, la vie bien réelle, laborieuse et féconde des abeilles peut reprendre et va durer. L'apiculteur va se remettre au travail. Virgile, le poète, peut écrire son poème. Orphée déjoue 2 fois la limite entre le monde des morts et le nôtre. Vivant, il entre dans les profondeurs des enfers et en charme par sa voix les maîtres divins. Mort, sa tête chantante peut clamer son savoir aux humains encore en vie. Orphée saura être un guide pour les mortels après leur mort, quand eux aussi devront affronter les eaux stagnantes et les froideurs des enfers. Il saura leur indiquer un chemin de salut. Orphée a fait s'entremêler dans sa vie, vie et mort, charme et chagrin. Il saura indiquer aux humains décédés comment surmonter la rupture épouvantable, définitive et atroce que paraît d'abord être la mort. Il leur montrera qu'il y a une vie après la mort.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Guess I really miss you.
Et celui qui dit la mort n'existe pas.
Olivier Py.
Cette formule, vie, mort, vie, elle est la formule que les orphiques enterraient avec eux, sur leur cœur. Elle est aussi ce qui n'en a pas fini de révolter les philosophes. C'est l'autre Grèce, la Grèce d'Orphée. Hein. Quand Paul dit il y aura résurrection des morts, c'est là que les Corinthiens n'écoutent plus. Quoi. C'est là qu'ils ne sont pas d'accord. Donc Orphée dit ça. Il dit non, que 2 et 2 fassent 4, peut-être, mais ça, il ne faut pas l'accepter. On ira dans les enfers, contre toute rationalité, faire des miracles, faire l'impossible.
Je voudrais finir ce voyage avec Orphée en évoquant deux textes très étranges. Ils sont écrits sur de fines lamelles d'or, qu'on avait découpées et qu'on a déposées sur la poitrine de femmes ou d'hommes qui venaient de mourir. Dessus, on mettait une pièce de monnaie pour que la morte ou le mort puisse payer sa traversée du fleuve des enfers. Ces lamelles passaient pour reproduire des paroles d'Orphée, celles qui étaient sorties de sa tête tranchée après son voyage dans l'au-delà à la recherche d'Eurydice et après sa mort brutale. Ces lamelles d'or visent à rassurer les décédés, mais à condition qu'ils aient déjà été initiés. Elles rappellent aux morts ce qu'ils ont appris pendant leur initiation. La première lamelle était posée sur la poitrine d'une femme. Elle date du 4e siècle avant notre ère. Elle a été trouvée dans une tombe en Thessalie, à Pellina. La lamelle, très petite, d'une longueur de 4 cm environ, a été découpée en forme de cœur. En fait, elle imite la feuille du lierre, une plante souvent reliée à Dionysos et à la mort. On lit.
« Maintenant tu es morte, et maintenant tu es née. Toi, la trois fois fortunée aujourd'hui. Dis à Perséphone que Bacchios lui-même t'a délivrée. Taureau, tu t'es jeté dans le lait. Tout de suite, tu t'es jeté dans le lait. Bélier, tu es tombé dans le lait. Tu tiens l'honneur du vin, toi la bienheureuse, et les rites t'attendent sous la terre, comme pour les autres fortunés. »
En mourant, la morte a enfin accès à la vraie vie. Elle vient de naître. La reine des morts, Perséphone, la Proserpine des Latins, va l'accueillir. La morte devra dire que c'est Dionysos Bacchios qui l'a délivrée de son vivant, des lourdeurs, des douleurs et des mesquineries d'une vie trop humaine, pas assez divine. Comme les autres initiés, cette femme a accompli un drôle de rite.
Taureau, tu t'es jeté dans le lait. Tout de suite, tu t'es jeté dans le lait. Bélier, tu es tombé dans le lait.
C'est comme un baptême. S'agit-il de vrais gestes? Plutôt d'une forme de conversion symbolique, de renaissance, se lançant avec vigueur dans le lait de l'enfance, le taureau, le bélier ou la femme nouvellement initiée retrouve l'énergie première d'un début de vie. Elle renaît. La lamelle rassure la morte. Elle vient de mourir. Elle n'a pas encore été emportée dans sa tombe, mais le texte lui assure que là-bas, sous la terre, elle sera heureuse avec du vin. Le vin est essentiel, c'est Bacchos, Dionysos, le dieu des mystères constamment associé à Orphée. Et c'est aussi le banquet, le vin, que dans les légendes partagent quelques grands héros royaux et guerriers quand ils résident dans les îles des Bienheureux, après leur mort. Ici, Ce bonheur de la fête est garanti, non pas pour des héros de légende, mais pour tous et toutes, pour tous ceux qui ont été initiés. Tout le monde, avec Orphée, peut devenir héroïque. Le poète est plutôt démocratique. La seconde lamelle décrit le voyage que va entreprendre le défunt. Elle nomme les étapes, donne des conseils. Elle rappelle ce que la déesse Mémoire, la mère des muses, ordonne de ne pas oublier, tellement le risque de l'oubli est grand avec la mort. La lamelle d'or date de la fin du 5e ou du début du 4e siècle avant notre ère.
Ce mot sacré est de la déesse Mémoire, pour ceux qui s'apprêtent à mourir. Tu iras dans les maisons d'Hadès, bien construites. À droite, il y a une source. Près d'elle se dresse un cyprès. Il est blanc. Là descendent les âmes des morts. La fraîcheur les anime. De cette source, ne t'approche pas trop près. Plus loin, tu trouveras qui s'écoule du lac de la déesse Mémoire, une eau fraîche. Devant, il y a des gardiens. Ils te demanderont, avec une pensée bien solide, pourquoi tu explores les noirceurs de l'Hadès ombreux. Tu diras, je suis le fils de la pesante, la terre et du ciel couvert d'étoiles. Je brûle de soif et j'en meurs. Vite, donnez-moi à boire l'eau fraîche du lac de la déesse Mémoire. Et eux le diront à la reine de dessous la terre. Et eux te donneront à boire l'eau du lac de Mémoire. Et toi, tu auras bu, et tu iras sur la route sacrée, où marchent en pleine gloire les autres initiés de Bacchos.
Les gardiens de l'eau fraîche qui coule du lac de la déesse Mémoire demanderont un mot de passe pour que le mort puisse boire et avoir accès à la route sacrée qui mène au bonheur. Ce mot de passe est...
Je suis le fils de la pesante, la terre et du ciel couvert d'étoiles.
L'être humain est double. D'un côté, il est terreux, lourd, pesant. Mais il est aussi céleste, divin, étoilé. L'eau fraîche libérera sa nature céleste, divine. Il sera admis dans le groupe des initiés qui marchent splendides, en pleine gloire. Ces textes, gravés pour les morts, il y en a beaucoup, nous disent la confiance que suscitait l'enseignement issu de la bouche d'Orphée. Il y a de l'espoir après la mort, si on a su s'y préparer. Orphée pouvait convaincre. Il peut parler de la mort, de la perte, de l'au-delà. Car il a connu toutes ces choses en passant par toutes les conditions possibles, aussi bien celles de vivant que celles de mort. Chaque fois, quoi qu'il lui arrive, il a continué à chanter. On est à 1000 lieues de la vision des enfers que plusieurs siècles auparavant proposait un Homère. Ulysse, comme Orphée, est dans l'Odyssée allé, vivant, visiter les morts dans leur pays souterrain. Il ne rencontre que des ombres menaçantes et malingres, sans consistance, sans esprit, tristes. Même le divin Achille lui fait une pénible impression. Achille gémit. Mais Ulysse est malgré tout trop content de retrouver son ancien compagnon de guerre, même mort. Il rappelle à Achille à quel point il l'admirait de son vivant et il le félicite pour le rang qu'il tient désormais chez les morts.
« Et toi, Achille, aucun homme n'a jamais été, jamais ne sera plus bien heureux que toi. Autrefois, quand tu vivais, nous t'honorions à l'égal des dieux, nous, les Grecs. Aujourd'hui, tu as encore une fois un grand pouvoir chez les morts, là où tu es. Que ta mort ne te chagrine pas trop, Achille. »
La réponse d'Achille est cinglante.
« N'essaie pas de m'adoucir ma mort, lumineuse Ulysse. J'aimerais mieux être un ouvrier agricole au service d'un autre, même d'un homme sans bien, qui n'a presque rien pour vivre, que de régner sur tous ces morts épuisés. »
Pour Homère, il n'y avait rien ou presque après la mort, seulement des âmes vides. Avec Orphée, la mort cesse d'être un néant, un abîme abrupt. Elle met sur le chemin d'un bonheur. Homère a chanté l'épopée des héros, de leur succès, de leur douleur, de leur disparition. Après leur mort, il ne reste d'eux quasiment rien. Il ne reste que la voix d'Homère pour les rendre immortels pendant des siècles. Orphée a inventé l'épopée des âmes. L'âme, cette force vitale qui pour les vivants est logée dans la tête, qui traverse toutes les conditions de vie et de mort. Orphée peut être ce poète de l'épopée des âmes, car la sienne a tout connu. Vivant, Orphée a chanté chez les morts, et mort, il continue à chanter chez les vivants. Il a lui-même surmonté tous les obstacles, toutes les ruptures, dans la souffrance et dans la beauté miraculeuse de sa voix. Il n'est plus qu'une voix, insubmersible, continue, qui relie toutes les expériences humaines, de mort ou de vie, les expériences de tout le monde, dans un même chant ininterrompu. La voix d'Orphée restera toujours, après sa mort. C'est ce que dit le poète Rainer Maria Rilke dans ses sonnets à Orphée.
Une fois pour toutes, c'est Orphée, quand ça chante, il vient et il va.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël Eladad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Le Chêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La semaine prochaine, nous parlerons de la redoutable famille de Tantale, ça va déguster. Bonne journée sur France Inter.